Bonjour.
Le mal de dos, mal du siècle, on n'exagère pas en disant ça, docteur Brulart?
Non, je pense que vraiment il y a une prévalence qui est importante et c'est un problème qui est fréquent, qui est invalidant pour les patients, qui coûte cher à la société, donc je pense non qu'on n'exagère pas.
Et les causes de cette maladie du siècle, de ce mal du siècle, c'est quoi? C'est le changement de vie qui est devenu beaucoup trop sédentaire? C'est ça la principale cause?
On ne connaît pas la principale cause et la plupart des gens qui ont mal au dos, on ne sait pas leur dire exactement pourquoi. Par contre, c'est sûr que le changement de mode de vie et la sédentarité est clairement lié à la prévalence, donc à la fréquence du mal de dos. Des gens qui ont des activités professionnelles principalement assises et le temps qu'ils passent en position assise est associé tant à l'intensité qu'à la fréquence du mal de dos. Donc ça peut être une des causes, mais ce n'est probablement pas la seule.
D'autres causes qui peuvent être que le grand public peut ignorer et puis qui pour vous sont des causes évidentes, docteur Aclos?
Oui, bah, tout d'abord, bien sûr, on parle beaucoup des hernies discales qui sont plus des pourvoyeurs de causes de douleurs dans les jambes. Par contre, des douleurs qui peuvent venir sur des compressions neurologiques comme le canal lombaire droit qui créent en fait une douleur locale, ça peut être possible. L'arthrose, des maladies inflammatoires dont peut-être la doctoresse Brulart en parlera. Donc d'autres maladies plus spécifiques à le corps humain, les infections, les tumeurs peuvent causer des maux de dos, oui.
Alors, tout le monde ou presque, hein, 95% de la population, on l'a dit, tout le monde ou presque est concerné un jour ou l'autre par une forme plus ou moins grave de mal de dos. Ceux qui sont épargnés par le mal de dos, ils existent quasiment pas, c'est des menteurs, hein.
Je crois que c'est pas des menteurs, c'est juste que parfois on a un petit bobo, comme on dit, et puis on le laisse passer, et puis on dit, bah, ça va passer. Et en effet, dans une grande fréquence chez les patients, ce problème disparaît. Mais on a quand même toujours tous, on est exposé à ce problème de mal de dos. Et à un moment ou un autre, on va avoir une petite douleur dans le bas du dos, une sciatique, quelque chose qui va nous titiller, mais qui passe dans la plupart du temps.
Alors, comment savoir, justement, si ce mal de dos, il va passer, si c'est quelque chose de bénin, et puis que ça va passer de soi-même, ou alors des signes qui doivent alerter le patient, non, bah, que ce mal de dos, ça peut être le signe d'une maladie inflammatoire, quelque chose de plus important. Est-ce qu'il y a des signes qui doivent alerter le patient?
Alors, les signes les plus importants en tant que chirurgien qui va apporter vraiment une consultation, c'est ce qu'on appelle les red flags en anglais, donc les drapeaux rouges, qui sont des signes vraiment inquiétants. Typiquement, le problème, un mal de dos associé à une maladie oncologique, tumorale, peut apporter à la conclusion qu'il y a une tumeur dans la colonne vertébrale. Les autres signes, c'est comme si le patient a une infection, donc de la fièvre, des symptômes infectieux, et en plus, un mal de dos, c'est un signe inquiétant. Et tout signe neurologique majeur, une jambe qui vous lâche, des troubles sphinctériens, une perte de sensibilité majeure dans la jambe, doivent inquiéter le patient et en tout cas aller consulter son généraliste ou un spécialiste.
Les patients qui vous consultent, docteur Brulart, ils arrivent avec un mal de dos et puis on va découvrir d'autres choses, ou alors c'est des choses qui sont associées, c'est un panel de symptômes et de signaux qu'il faut interpréter?
Alors, ces red flags sont essentiels pour nous parce que c'est comme ça qu'on va trier le patient sur une cause spécifique ou une lombalgie qu'on va dire non spécifique, c'est-à-dire sans cause vraiment identifiable. Ce qui est important de savoir, c'est que sur 100 patients qui vont venir nous consulter, c'est au maximum 15% qui vont réellement avoir une cause identifiable. Donc ces red flags sont essentiels parce qu'ils nous permettent de détecter des pathologies graves. Ils nous aident aussi à orienter notre prise en charge. Par contre, c'est plutôt l'exception que la règle. La plupart des gens qui ont mal au dos vont avoir un type non spécifique, n'auront pas de red flags et vont surtout devoir être rassurés, être encouragés à rester mobile, à reprendre une vie normale.
Donc la mobilité, une activité sportive, c'est les choses qui peuvent nous empêcher d'avoir un mal de dos qui devient quelque chose d'handicapant.
C'est essentiel, c'est vraiment essentiel de rester en mouvement, d'être actif, d'avoir une bonne tonification musculaire.
Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure hors antenne de la Ligue contre le rhumatisme qui organise régulièrement des cours contre le mal de dos.
Alors effectivement, je propose très très souvent dans mes consultations ces cours. C'est des cours très variés. Il y a vraiment des cours de gym dans l'eau, de fitness ou de gym en groupe. Et puis il y a des cours qui sont plus liés à un aspect, je dirais, plus spirituel, comme du tai chi, comme du qigong, mais qui intègrent le yoga, qui vont intégrer le mouvement à un travail plus interne, mais chaque fois il y a vraiment le mouvement qui est intégré, la posture qui est intégrée, c'est vraiment essentiel, tant pour le traitement, c'est important que des gens qui ont mal au dos, de les encourager à reprendre le mouvement, et souvent c'est comme ça qu'ils s'améliorent, plutôt que par le repos, contrairement à ce qu'on pourrait croire.
si j'ose aussi rajouter, ce qui est vraiment important, c'est de dire, si on a mal au dos, on a le droit de bouger, et il faut bouger. Ça, c'est vraiment, je pense, un message qui est important à retenir, c'est que la mobilité, garder une activité, essayer de garder son travail, ne pas sortir du milieu social et professionnel, c'est indispensable pour traiter le mal de dos.
Aujourd'hui, ce qui a changé peut-être ces dernières années, c'est que on a une prise en charge du mal de dos et des problèmes aigus liés aux maux de dos qui est multidisciplinaire. Les spécialistes se parlent entre eux. Vous en êtes la preuve ce matin entre le chirurgien et la rhumatologue.
Tout à fait. Tout à fait. Je crois que ça, c'est vraiment un point important et qui est très prouvé dans la littérature. Et il faut parler avec les patients, mais entre nous, on a mis en place d'ailleurs une consultation une fois par mois par les équipes pluridisciplinaires où on se rencontre, on parle des cas qui nous échappent ou qui nécessitent un avis multidisciplinaire. Donc il y a les rhumatologues, les physios, les ergos, ou l'équipe de neurologie, les chirurgiens, tout le monde est autour de la table et puis on discute vraiment des cas qui nécessitent un avis pluridisciplinaire. Et je pense que ça, c'est vraiment une plus-value qu'on peut apporter aux patients, c'est de se rencontrer, de discuter de leur cas et puis de partager nos idées, nos vécus et nos expériences personnelles.
La chirurgie, c'est vu comme le dernier recours, ou alors on essaye plein de choses avant, et puis la chirurgie, c'est à la fin, quand les autres choses n'ont pas marché, ou alors il y a des cas qui sont très ciblés.
Tout à fait. Alors, si on parle de la lombalgie commune, comme abordait la doctoresse Brulart, en effet, on a tendance à garder la chirurgie en dernier recours, si vraiment on a épuisé le stock de propositions qu'on peut donner aux patients. Et ça reste quand même une arme qu'on peut utiliser pour traiter ce mal de dos. Maintenant, ça nécessite une prise de conscience du patient, des risques que comporte une chirurgie du dos. Donc c'est sûr, c'est quelque chose qu'on ne prend pas à la légère. Dans certains cas spécifiques, plutôt dans le cas peut-être des urgences ou, comme on le disait un petit peu tout à l'heure, quand il y a une maladie sous-jacente, là la stratégie peut changer, la chirurgie devient plus au premier plan quand il y a une maladie infectieuse, typiquement ou sinon une fracture instable, où là il faut agir plus vite, mais c'est souvent par le biais des urgences.
Docteur Brulart, on peut être soulagé du mal de dos, ou alors, dans la plupart des cas, ça devient quelque chose de chronique et puis il faut apprendre à vivre avec.
Alors, on considère que la majeure partie des gens vont avoir un épisode de mal de dos. Par contre, il y a environ 10% qui vont développer ce qu'on a appelé une douleur chronique, une douleur qui va s'étendre sur plus de 3 mois et qui va rester persistante. Donc, c'est de nouveau une minorité des patients, mais une minorité des patients qui vont générer 85% du coût de la lombalgie pour la société. Donc, c'est pas négligeable. Donc, la plupart des gens vont guérir de leur mal de dos. Et il y a des patients qui vont développer cette forme chronique pour lesquels, effectivement, on va mettre en place cette prise en charge. Alors, j'aime bien le terme interdisciplinaire parce qu'on est complémentaires. C'est pas une approche, mais c'est vraiment un petit peu comme une maison qui se construit et chacun amène une pierre à cet édifice qui va amener le patient à vivre avec ce mal de dos et à retrouver une bonne qualité de vie. On peut vraiment l'accompagner dans cette direction-là.
Parce que vous le disiez, ça a des implications importantes au niveau des coûts et puis au niveau de la vie du patient, sur tous les aspects de sa vie finalement. Parce que quand on a mal au dos, on en a plein le dos, hein, justement, des implications sur la vie familiale, la vie sociale, la vie professionnelle. Il y a vraiment tous les secteurs de la vie qui sont touchés.
Et un chamboulement majeur et il y a un impact en termes de qualité de vie qui est très important.
Donc, je crois que ce qui est aussi très important de voir, c'est que tout mal de dos n'est pas à prendre à la légère. Tout de suite, il faut avoir une prise en charge assez rapide de la part des équipes qui reçoivent quelqu'un qui a mal au dos, sans forcément faire des examens complexes ou des choses. Mais tout de suite, prendre ça, un médecin traitant doit s'interroger tout de suite et mettre en place un encadrement qui soit psychique, physique ou physiothérapeutique pour aider le patient à tout de suite se sortir de cette problématique-là. On essaye d'éviter la chronicisation qui peut amener à des traitements lourds, à un coût pour la société et parfois des chirurgies qu'on aurait pu sûrement éviter si la prise en charge avait été immédiate par l'équipe soignante. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça.
Ouais, je pense effectivement qu'il ne faut pas négliger au départ et pas négliger. On arrive à identifier des patients qui sont plus à risque de chronicisation. On va parler de facteurs psychosociaux, c'est des patients qui ont un mauvais entourage, des patients qui vont être passifs sur la prise en charge, qui attendent à ce que les autres les aident, hein, qui ne vont pas être acteurs de leur guérison, des patients qui ont des conflits avec leur employeur, des patients qui ont des conflits avec les assurances. C'est tout, pour nous, c'est des signes d'alerte de patients qui sont à risque de se chroniciser. Ces patients pour qui on va mettre en place une prise en charge plus rapide, plus intensive et rassurer le patient. C'est paradoxal parce que la plupart du temps, le mal de dos n'est pas grave pour nous comme médecin, c'est pas une tumeur, c'est pas une infection, mais c'est dramatique pour le patient et c'est important de le rassurer sur le fait que même s'il a une douleur extrêmement forte, même s'il a un impact sur sa vie avec un chamboulement qui est majeur, la cause, à la base, le plus souvent, est pas sévère.
Ce qui est aussi intéressant de souligner, c'est qu'un mal de dos amène beaucoup au retrait du travail. Donc les patients ne sont plus au travail. Et une des petites images qu'on pourrait mettre en parallèle, c'est comme si tous les habitants de la Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel ne travaillaient plus pendant un an. Ça pourvoit ça en termes d'arrêt de traitement chez les patients. Donc c'est pratiquement 80 000 personnes qui ne travaillent plus sur une année.
Donc c'est des chiffres qui sont complètement incroyables et hallucinants. Du coup, la prévention, ça passe par quoi? Le mouvement?
Et l'information, je pense aussi. Rassurer le patient quand il arrive, lui dire qu'on n'a pas d'indice qu'il y a quelque chose de grave, qu'il faut qu'il reste en mouvement, qu'il fasse ce qu'il peut, mais qu'il le fasse. Je pense que ça, c'est aussi un point important.
Et puis, on a parlé également des cours qui sont donnés par la Ligue contre le rhumatisme. On mettra évidemment les différents éléments en lien tout à l'heure sur la page de Format 3. On vous remercie parce qu'on arrive déjà au bout de cette émission. On vous remercie tous les deux de nous avoir rejoints ce matin. Et puis, évidemment, la discussion, elle se poursuit ce soir à partir de 19h à l'hôpital pour Thalès à Neuchâtel. Peut-on en finir avec le mal de dos? Merci beaucoup.
Merci pour l'invitation.